Merci Vincent, c'est parti pour Allô ici Bouvard sur RTL avec vous Philippe. Bonjour Philippe Bouvard.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous. Et je vous préviens qu'il y a des sujets qui ne seront sans doute pas très drôles parce que nous approchons de la Toussaint.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Je vous souhaite de l'ignorer, surtout si vous avez un ordinateur, surtout si vous dirigez une grande entreprise. Mais enfin, elle est là, c'est la nouvelle criminalité. Et pour en parler, je vais prendre l'avis de Yannick Châtelain, qui est professeur de management à l'école de Grenoble. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, Philippe.
Alors, quand avez-vous découvert la cybercriminalité ?
Je crois que je l'ai découvert avec tout le monde au travers de notamment tous ces virus qui se sont propagés régulièrement. Ça date depuis la naissance d'Internet, quasiment, Philippe.
Les hackers ont réagi tout de suite.
Dès lors qu'il y a une opportunité, parce que quand on parle de hackers, Philippe, à la fois vous avez ce qu'on appelle des white hat hackers, c'est-à-dire des hackers de type éthique, qui vont essayer de protéger la population pour les prévenir qu'il y a des possibilités d'escroquerie. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, vous avez aussi la pâture humaine qui, elle, se dit « tiens, on va se faire de l'argent et on va se faire de l'argent facile ». Et souvent, Philippe, la cybercriminalité, ça ne demande pas de connaissances technologiques particulières.
Le hacker qui pirate les systèmes informatiques peut choisir, mais il peut aussi faire les deux, entre le piratage des données, c'est les data comme on dit, et les virements qui vont permettre de prendre des millions d'euros à des gens qui les possèdent d'ailleurs.
Philippe, vous êtes plus expert que moi, puisqu'en définitive, vous venez de faire la bonne synthèse. Vous avez deux types de choses, et là encore, j'y reviens, qui demandent malheureusement aucune connaissance technologique. Vous avez ce qu'on appelle l'arnaque au président, ce qu'on appelle les faux vies. Ce sont les escroqueries aux faux ordres de virement. Il suffit d'avoir du bagout, un téléphone, une bonne connaissance de l'organisation, et de faire des virements, ce qu'on appelle l'arnaque au président. Et vous avez ce qu'on appelle les rançongiciels, donc les gens ont entendu parler de WannaCry. Philippe, si demain vous voulez avec moi qu'on monte une organisation de cyberdélinquance, il suffit de se doter de kits qui sont disponibles. C'est entre $175 et $350, pour une petite mise de départ, pour entreprendre des actions où là, avec ce qu'on appelle les rançongiciels, vous allez en fait chiffrer les données des personnes. C'est pour ça que les PME sont très ciblées, les TPE, les auto-entrepreneurs, ou les gens comme vous et moi. Parce que derrière, les grandes entreprises sont plus protégées par rapport à ça les petites entreprises qui ne pensent pas. Regardez, vous comme moi, combien de fois on a écrit quelque chose et on se dit « mais pourquoi j'ai pas sauvegardé ?» Là, c'est simplement pourquoi on n'a pas sauvegardé. D'un seul coup, on va vous demander de payer pour pouvoir accéder à vos données.
À quoi s'aperçoit-on qu'on est piraté ?
D'un seul coup, vous ne pouvez plus ouvrir vos fichiers. Imaginez, Philippe, demain matin, vous ouvrez votre ordinateur et d'un coup, votre ordinateur, il est complètement bloqué. Et tous vos fichiers, vous ne pouvez plus les lire. Et il y a quelqu'un qui va vous demander de payer pour vous donner, en fait, une clé de chiffrement.
Quel dégât peut causer un virus dans une grande entreprise comme, hélas, c'est déjà souvent arrivé?
Alors, en dégâts, vous avez dernièrement, parce que il paraîtrait, vous avez certaines sociétés spécialisées dans la sécurité, que par exemple, les dégâts au niveau de ces rançongiciels ou ransomware, il paraîtrait que ce soit en baisse de l'ordre de 32%. Moi, je veux bien. Ceci étant, en 2018, pour vous parler en termes de chiffres, il y a eu une attaque en mars contre la ville d'Atlanta qui a provoqué donc le chiffrement des données et qui a provoqué la fermeture d'un grand nombre de services en ligne. Ça lui a coûté 2,6 millions de dollars quand même. Et derrière, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ça marche. Parce que le RGPD, bien sûr, c'est censé protéger les données. Mais derrière, le salarié a tellement honte une fois qu'il est piraté, eh ben c'est lui qui paye la rançon. C'est lui qui paye la rançon. C'est, il n'ose pas dire parce qu'il a peur que ce soit une faute professionnelle ou il a peur d'être la honte de son entreprise ou d'avoir mis en péril son entreprise. Pourquoi ça fonctionne? Alors que quand vous vous faites attaquer de cette façon-là, il ne faut jamais payer. Jamais.
Alors la réponse que tous ceux que vous avez mis en garde et attendent avec impatience, comment se prémunir contre les virus?
Alors, la première chose, et surtout les virus dont je vous parle, qui sont à aujourd'hui les pires et qui vont continuer à proliférer. D'abord, sauvegarder régulièrement ces données. C'est-à-dire avoir le réflexe de faire, alors que ce soit au niveau d'une entreprise ou de quelqu'un comme vous et moi, régulièrement on sauvegarde nos données, ce qui fait qu'on peut récupérer. Deuxièmement, de la pédagogie. Dire aux salariés, on s'est fait pirater. Moi, je suis pas à l'abri de me faire pirater. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis pas à l'abri d'une escroquerie qui est bien montée. Ils sont vraiment très forts. Donc dire, OK, vous êtes piraté, prévenez. Ensuite, donc ne jamais payer ça. Philippe, on en a parlé. Et ensuite, prévenir les professionnels. En France, vous avez notamment deux services. Vous avez les investigateurs en cybercriminalité qui s'appellent l'ICC Police. Et vous avez les NTEC Gendarmerie. Et un NTEC, c'est un militaire de la Gendarmerie nationale qui est formé aux nouvelles technologies au sein de son institution, au sein de l'Université technologique de Troyes. Ce sont des gens qui sont en mesure, parce que comme je vous dis, ce sont des petites frappes de la cyberdélinquance. Ils sont rapidement traçables. Voilà donc quatre bons réflexes de mon point de vue. Sauvegarder régulièrement. De la pédagogie toujours et encore pour dire, OK, on a le droit à l'erreur, c'est pas un crime. Ne jamais payer, surtout sur ce type d'attaque, et ensuite prévenir les professionnels.
Dernière hypothèse que j'ai un peu honte de formuler, est-ce que le meilleur moyen de ne pas souffrir de la cybercriminalité ne consiste pas à se passer d'ordinateur?
Moi, personnellement, quand je vois l'usage qui est fait d'Internet, je vais prêcher un peu contre ma paroisse. J'ai le sentiment parfois d'avoir attrapé la gale du maçon. La gale du maçon, c'est les gens qui font une allergie au ciment. Philippe, c'est provocateur, votre question, mais j'irai assez dans votre sens. Si on pouvait un peu de temps en temps prendre du temps pour parler avec les gens, être moins sur notre ordinateur, indéniablement, on aurait moins de soucis.
Merci, monsieur le professeur Yannick Jatelin. Merci beaucoup.
Merci à vous, Philippe.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Je profite de la Toussaint pour vous rappeler que mourir à Paris pose presque autant de problèmes que d'y vivre. Oui, parce que les 14 nécropoles intramuros de la capitale sont complètement saturées. À telle enseigne qu'on a renoncé aux fameuses concessions à perpétuité, qui d'ailleurs n'étaient pas données parce qu'il fallait dans un des principaux cimetières compter jusqu'à 15 000 euros, plus les frais de cimenterie, éventuellement de sculpture, les pompes funèbres et tout le reste. On s'est allé chercher assez loin. Et aujourd'hui, on a supprimé ces concessions à perpétuité. Il ne reste plus que la concession à 10 ans ou à 50 ans. Mais attention, les concessions que l'on avait délivrées le plus légalement du monde et contre forte somme restent toujours valables. Alors, dans le palmarès des nécropoles, il faut placer en tête le Père Lachaise avec 70 000 locataires définitifs. Vient ensuite le cimetière Montparnasse, 50 000, et puis le cimetière Montmartre, 20 000. Mais vous vous apercevrez qu'évidemment, ça ne suffit pas lorsqu'on sait que 14 000 Parisiens décèdent chaque année. Alors, naturellement, toutes sortes de conditions sont posées pour avoir droit à une place dans une nécropole parisienne. Alors, il y a trois conditions. Ou bien être domicilié à Paris, ou bien disposer d'une sépulture familiale. ou bien être mort à Paris. Voilà. Mais il faut évidemment qu'il y ait un lien avec la capitale pour justifier que, notamment pour les provinciaux qui sont venus s'y installer et y défunter, ils préfèrent reposer dans une nécropole parisienne plutôt que dans le petit cimetière de leur village. Mais il y a quelque chose qui est venu tout changer. Et j'ajouterais, heureusement, bien qu'il ne faille pas se réjouir de voir la vie finir, c'est la crémation. Alors la crémation, elle a été quasiment clandestine jusqu'en 1963, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Église l'autorise. Et puis aujourd'hui, elle est passée de 1% des décès en 1981 à 36% aujourd'hui. Et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini parce que c'est dans l'air du temps, si je puis dire. Ça n'est pas fini parce que ça coûte un peu moins cher. Ça n'est pas fini parce que ça libère des espaces. Et notamment avec des urnes. Une urne, ça coûte 30 euros. Vous me direz qu'il faut payer ensuite 100 euros pour la transporter. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus facile. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'installer l'urne du grand-père sur la cheminée du salon. Non, ça, c'est terminé. C'est dommage parce que c'était un joli souvenir. Mais il reste précisément les jardins du souvenir. Et là, ce n'est pas dans le salon, ce n'est pas sur la cheminée, c'est des espaces verts qui sont dédiés à ceux qui ont été réduits en cendres. Et on peut également disperser les cendres. On peut les disperser, mais pas sur la voie publique. Hein. Non. Mais enfin, on peut les... Et pas dans un fleuve non plus. Hein. Et pas dans une rivière. Non. Mais enfin, il n'est pas interdit, comme Jean Gabin l'avait fait, de demander qu'on disperse ces cendres dans l'océan. Voilà. Alors... Évidemment, l'océan offre beaucoup plus de place qu'un cimetière. Hein. C'est peut-être ça l'avenir, mais il n'est pas gai.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Il n'y a pas trop de prix littéraires en France, parce qu'on en enregistre quelques 2500 chaque année, et rien qu'au mois de novembre, il y en a 6 par jour. Alors, je vais demander son avis à une orfèvre, Madame Marie-Rose Garnery. Bonjour, madame.
Bonjour, Monsieur Philippe Bouvard.
Alors, vous êtes une libraire tout à fait organisée et vous ne devez pas déplorer qu'il y ait trop de prix littéraires, puisque en plus de votre librairie des Abbesses, vous en avez créé un.
Oui, c'est vrai, mais quand j'ai créé un prix littéraire, c'était pas pour créer un prix littéraire de plus. C'était pour dire aussi ce qui manquait dans les prix et ce qui ne se faisait plus dans les prix.
Chaque ville, chaque association, chaque grande société veut son prix littéraire. Bon,
ouais, c'est bien en même temps. Hein.
Est-ce que l'idéal ne serait pas que on puisse décerner un prix à chaque auteur? Quand on sait qu'un livre se vend à peu près 20 euros, hein?
Oui, ce qui n'est pas cher, hein, en fait. Hein.
Que le malheureux auteur, je devrais dire l'infortuné, touche là-dessus 2 ou 3 euros, et même souvent moins. Que oui. Cette somme récompense le travail de plusieurs années, parfois.
Oui, c'est ça.
Il y a les grands prix littéraires, ceux qui font vendre plus de 5000 exemplaires.
Je pense c'est le cas de mon prix, hein.
Je pense au prix Goncourt et à ses déclinaisons, et notamment au Goncourt des lycéens qui se porte pas mal. Hein.
Oui, ça se porte pas mal, ça se porte pas mal du tout. Mais au fond, si ces livres se vendent très bien, c'est parce que souvent, on remet le prix à des livres au potentiel commercial et des livres qui ont déjà été déjà reconnus par les lecteurs et des livres qui ont déjà un potentiel commercial. Donc, en fait, on ne fait qu'ajouter une valeur rajoutée à quelque chose qui est déjà... Vous voyez, Slimani vendait très très bien quand elle a eu son prix Goncourt. Elle était déjà dans le top 10 des ventes.
Il y a le Renaudot, il y a l'Interallié, ouais. Il y a le Médicis, il y a le Grand Prix du roman de l'Académie française.
Oui.
Et il y en a d'autres encore. J'imagine que l'auteur qui meurt de faim, faute de droit d'auteur suffisant, se réjouit lorsque on lui attribue son poids en reblochon.
Bon, d'accord.
Est-ce qu'il y a des prix qui ne font pas vendre un seul exemplaire ?
Il y a des prix qui font beaucoup moins vendre, qui font plaisir au groupe qui le remet. Il y a des prix qui sont comme ça. Mais l'importance aussi d'un prix pour un écrivain, pour avoir remis moi-même 21 prix, et je vais en remettre un au mois de novembre, je sais aussi que pour les auteurs, ce qui est important, c'est de recevoir une reconnaissance de la part de quelques lecteurs, même s'ils ne vont pas faire 20 000 exemplaires grâce à cette reconnaissance, ils sentent qu'ils ont été bien lus, qu'ils sont appréciés, et c'est un encouragement. Il y a un encouragement symbolique. Quand même, en France, la valeur livre est un prisme qui est incomparable.
Permettez-moi de formuler un vœu pour terminer. C'est que le lecteur soit aussi enthousiaste à la pensée de lire un livre, et un bon livre de préférence, que vous qui êtes certainement une reine des libraires. Merci Marie-Rose Garnery.
Merci à vous. Au revoir Philippe.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
La France est-elle devenue une nounoucratie ? Eh bien, on peut le croire lorsqu'on recense le nombre d'adultes qui se penchent sur nos chères têtes blondes. Et ça commence avant même leur naissance, avec ces échographies de grossesse qui sont les nouvelles photos de famille. Et ça se poursuit tout de suite après la naissance, par une batterie d'examens extrêmement sophistiqués, et ça se prolonge encore par 11 vaccins. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas ajouté à ces 11 vaccins un 12e qui aurait été un vaccin contre la télé. Car c'est le principal souci des ministres, des membres du CSA, et de tous les éducateurs, que les enfants ne regardent pas la télé. Or, chaque foyer français est équipé de au moins 5 écrans. Oui, il y a les écrans de la télé, mais il y a les écrans d'Internet, mais il y a les écrans de l'iPhone, et donc ça fait beaucoup d'images qui sont proposées aux enfants sans aucune explication et sans aucune mise en garde, et qui disent les éducateurs de tout poil compromettent durablement son développement cérébral et physique. Voilà. Alors vous rendez compte, hein, alors que toute la famille regarde la télévision, eh bien justement, c'est fini. Le bébé ne doit plus regarder la télévision pendant les repas de famille. Il ne doit plus regarder la télévision le matin en se réveillant. Il ne doit plus regarder les dessins animés, il doit leur préférer la fiction. Alors ça, l'explication, elle reste à définir. Le bébé ne doit plus s'endormir avec le biberon dans la bouche. Bon, pourquoi pas. Mais vous noterez quand même que la télévision n'est pas responsable, hein, là. Et alors, dernière nouvelle, et peut-être d'ailleurs une des meilleures et une des plus compréhensibles, au début de l'année, le CSA a édicté que la publicité dans les émissions pour enfants devait être interdite. C'est-à-dire qu'on a le droit d'influencer, et parfois pas dans le meilleur sens, les adultes, mais de grâce, ne proposons pas aux bébés des produits qui pourraient être dangereux ou qui sont sans intérêt. Voilà. Alors naturellement, tout ça est assorti d'une série d'interdictions. Il ne faut pas que le bébé couche pendant 6 mois dans une autre chambre que celle de ses parents. Il ne faut pas que le bébé voie des images qui peuvent le traumatiser. Ben oui, ça, bon. Et il est préférable que, dans ces cas-là, il y ait à côté de lui un adulte qui lui explique ce qu'il est en train de voir. Vous voyez que c'est pas simple, hein. Et vous voyez qu'on est en pleine nounoucratie, puisque, bon, il ne se passe plus de jours sans qu'on renvoie des mineurs devant la justice, sans qu'il y ait des lycéens en garde à vue. Bref, à moins de 3 ans, pas de télé. c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Au-delà de 3 ans, beaucoup de circonspection dans l'usage de l'écran. Car l'écran n'est pas dangereux en soi, c'est ce qui véhicule comme image qui peut nuire à l'enfant. Et à partir de 8 ans, 1 heure seulement par jour, vous voyez, on est en train de tuer l'audimat.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Le mot de la semaine, c'est la glottophobie. Oh, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce mot. Il est apparu il y a une 20aine d'années sous la plume d'un sociologue qui s'appelait Philippe Blanchet. Et il devait désigner la méfiance que les Français ont à l'égard des accents de province et parfois des accents étrangers. Et alors, M. Mélenchon, toujours lui, a remis ce mot à la mode l'autre jour lorsque il a refusé de répondre à la question d'une journaliste toulousaine qui avait un accent à couper au couteau en lui disant qu'il ne répondait qu'aux questions qui étaient posées en français. Or, je vous rappelle que M. Mélenchon est député de Marseille et qu'à Marseille, on a l'accent.
Allô, ici Bouvard sur RTL.